Donc, nous étions arrivés à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Scott reçoit une prophétie. Une prophétie qui lui dit ceci: retourne dans ton premier pays, car viennent des temps où ta liberté dans ce pays-ci serait menacée. Ta liberté même serait menacée. Et sans savoir que la guerre va éclater, Douglas Scott prend au sérieux cette prophétie et retourne en Angleterre. Bien lui en prend. Effectivement, la guerre éclate quelque temps plus tard. Et la guerre va être pour Douglas Scott l'occasion de donner suite au projet initial qui était le sien quand il était venu en France, savoir partir comme missionnaire en Afrique. Nous nous souvenons que c'était son but premier et que l'apparition du réveil en France d'une manière inattendue l'avait détourné de son premier projet. Mais puisque maintenant la France lui est fermée, la France qui s'est effondré en l'espace de quelques mois devant la poussée des armées allemandes, eh bien, il se décide de partir pour le Congo. Le Congo qui est alors sous la domination de Vichy, du gouvernement de Vichy. Et là, donc, il parvient à prendre pardon, non, je m'excuse, je me suis trompé. Il part sur le Congo belge. Donc, c'est les lois belges qui sont en œuvre là-bas. Et son but est de former des pasteurs compétents pour le Congo qui vont pouvoir répandre le réveil dans ce pays. Il laisse en Angleterre son fils qui est âgé de 7 ans et un fils plus jeune encore qui n'a que 2 ans au moment où la guerre éclate. Et le couple Scott prend le dernier bateau qui parvient à quitter l'Angleterre à destination de l'Afrique. Évidemment, le voyage est extrêmement risqué. C'est l'époque où les sous-marins allemands torpillent tous les navires alliés et le risque est énorme. Mais Douglas Scott se confie dans le Seigneur et il parvient sain et sauf à son but. Mais après un voyage éprouvant, donc c'est le 19 décembre 1939 qu'il arrive au Congo. Il a dépensé le peu d'argent qu'il avait pour payer son voyage, si bien qu'il arrive pratiquement sans le sou. Il n'a même pas les moyens nécessaires pour s'acheter de la quinine, si bien que ce qui doit arriver arrive. Il est atteint de la malaria, lui et sa femme. Mais ce qui ne va pas l'empêcher de se lancer à fond dans son ministère. Il va rester au Congo jusqu'en 1946. Et là, il va se révéler un missionnaire absolument infatigable. Il va parcourir plus de 3000 kilomètres à pied. Il n'est pas question d'avoir de moyens de locomotion à cette période-là. Et là, il va faire un travail extraordinaire, formant donc les pasteurs qui vont pouvoir répandre le réveil dans ce pays du Congo. Pendant ce temps-là, donc, la France est plongée sous l'occupation allemande. Dès 1940, lorsque la France tombe entre les mains d'Hitler, ce dernier limite la liberté des pentecôtistes, comme il l'avait fait d'ailleurs pour les pentecôtistes allemands dès son arrivée au pouvoir. Les pentecôtistes allemands avaient été les premiers à subir la persécution hitlérienne au moment où ce dernier était arrivé au pouvoir. Il interdit notamment toute liberté de rassemblement. Il suspend l'apparition de leur journal et les pentecôtistes français se retrouvent dans une situation semblable. La situation des pentecôtistes français est encore plus dramatique du fait que nombre de pasteurs français sont mobilisés et de nombreuses églises sont donc sans berger, sans pasteur. Les conventions nationales sont donc suspendues pendant toute la durée de la guerre. Et il y aura néanmoins des rencontres clandestines, telles par exemple une rencontre qui aura lieu à Rouen, une rencontre pastorale qui aura lieu à Rouen en mai 1941, où on traite justement la question très difficile du divorce et du remariage, et on décide de refuser le remariage en se basant sur la Bible. On cite aussi, toujours à Rouen, en septembre 1942, une réunion, une concentration clandestine de jeunes. Finalement, les Allemands ne s'opposent pas à la poursuite des activités des pentecôtistes. Ils demandent simplement que un certain nombre d'inscriptions, d'entêtes, de désignations de lieux de culte qui ne leur conviennent pas soient enlevées. Bon. C'est donc un compromis peu contraignant que les assemblées de Dieu acceptent. C'est ainsi donc que se déroule la guerre, avec des bouleversements extrêmement importants, qui produisent une coupure entre les églises de France, au moment où, après la débâcle française et l'armistice de 1940, la France se trouve être coupée en deux par ce que l'on appelle la ligne de démarcation. La ligne de démarcation qui sépare la France du Nord, qui est directement sous l'administration allemande, et la France du Sud, qui, en principe, a un semblant d'autonomie sous un gouvernement fantoche, qui est le gouvernement de Vichy, mais qui, de fait, quand même, jusqu'en 1942, jouit d'une plus grande liberté que la zone nord. Et pendant toute la guerre, même si après 1942, cette ligne de démarcation n'est plus qu'une fiction, puisque les Allemands, après 1942, vont occuper la zone dite libre, c'est-à-dire le sud de la France, néanmoins, la ligne de démarcation demeure, et les Français du Nord ne peuvent pas visiter ceux du Sud et vice-versa. Si bien que les deux parties des Assemblées de Dieu vont se développer indépendamment pendant toute la durée de la guerre. Le Nord va graviter essentiellement autour de la grande église de Rouen, l'église du Havre, enfin la Normandie, disons, d'une manière générale. Et là, Pierre Nicole va créer, au lendemain de la guerre, une fédération d'églises. Fédération un peu dans l'esprit de la fédération baptiste qu'il avait quittée, dont il était pasteur avant de rejoindre les Assemblées de Dieu. Dans le sud, c'est plutôt autour de la grande église de Nice, l'église de Marseille également, mais surtout celle de Nice, dont André-Thomas Bresse est le pasteur, que vont se regrouper les églises du sud. Et ces dernières vont vivre d'une manière beaucoup plus lâche que celle du Nord. Et c'est au lendemain de la guerre que la rencontre entre les deux parties du mouvement français d'Assemblée de Dieu va avoir lieu. Et en 1946 a lieu la première convention nationale du mouvement à Nice, qui rassemble le Nord et le Sud. Il faut dire que cette rencontre ne va pas sans poser des problèmes, parce que finalement, ce sont deux unions d'églises différentes qui se sont développées. Et on se rend compte qu'on a affaire, en fin de compte, à deux mouvements. Notamment, vient dans la Convention de Nice la question de la fédération. Et la Convention du Sud refuse la fédération. Entend rester dans un système beaucoup plus lâche, beaucoup plus congrégationaliste. Finalement, alors il y a un autre problème aussi, c'est que le 1er février 1945, les Assemblées de Dieu du Nord ont acheté dans les environs de Paris un château pour en faire une école biblique et former ainsi des prédicateurs, ce qui est assez cohérent avec la vision qui était celle précisément d'André Nicole, de Pierre Nicole. Et le Sud rejette l'idée d'une école biblique. Et il y a donc des tensions qui sont vives et qui vont presque jusqu'à la rupture. Et finalement, on arrive à un accord au cours duquel on décide que les deux mouvements continueront, en quelque sorte, à vivre séparément l'un de l'autre, mais qu'une convention nationale rassemblera l'ensemble de la France chaque année. En 1999, les Assemblées de Dieu vivent encore de cette manière-là. La division entre le Nord et le Sud qui est un héritage de la Deuxième Guerre mondiale, continue jusqu'à ce jour à marquer le mouvement de Pentecôte français. C'est tout à fait anachronique, c'est tout à fait désuet, mais telle est la force des traditions. C'est très intéressant de voir que dans un mouvement qui précisément se prétend être un mouvement qui n'a pas de tradition, eh bien, une tradition aussi anachronique a pu se perpétrer jusqu'à nos jours. C'est pas... bon. 1946, c'est aussi l'époque où Douglas Scott revient en France. Il a terminé sa mission au Congo et il estime que le temps est venu pour lui de reprendre son travail en France qui maintenant donc est libéré. L'après-guerre est une période extrêmement difficile. D'abord parce que beaucoup d'églises sont en ruine sur le plan immobilier. Les locaux de culte ont été bombardés, ont été saccagés, des mouvements de population ont eu lieu, certaines églises se sont vidées de leurs membres parce qu'elles étaient dans des zones de combat, etc. Et puis alors, il y a aussi une grande pauvreté de la population. Et les Assemblées de Dieu françaises vont être aidées par les frères anglais, par exemple, ou américains, suédois, etc. Il y aura une aide bienvenue qui viendra à point nommé, justement, pour permettre au mouvement de Pentecôte français de repartir. Mais les ruines ne sont pas simplement matérielles, elles sont aussi spirituelles. L'esprit de réveil qui avait marqué la première période du mouvement, c'est-à-dire la période de l'entre-deux-guerres, a fait place à une indifférence quasi généralisée comme conséquence justement de la guerre. Il y a, comme au lendemain de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, c'est le même phénomène, mais qui est décuplé, un appétit de jouissance, de plaisir, de bien vivre, de confort, etc., qui fait que la prédication de l'Évangile dans l'immédiate après-guerre est beaucoup plus difficile qu'avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les jeunes qui sont les plus atteints par cet esprit et qu'il est beaucoup plus difficile de toucher. Il y a une modification de l'échelle des valeurs qui va aller en s'amplifiant malheureusement avec le temps pour atteindre aujourd'hui les abîmes que l'on connaît, que l'on sait, mais qui ont leur origine, si on remonte aux sources, leur origine est précisément dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici, le premier devoir des Assemblées de Dieu, avec l'aide essentiellement de la Suède, qui va fournir un programme d'aide qui ira de 1945 à 1948, c'est la question de la réunification entre le Nord et le Sud dont nous avons parlé. C'est ainsi qu'un autre problème est traité dans une autre rencontre qui a lieu un peu plus tard, en 1948, à Toulon, et qui est le problème de la reconnaissance des pasteurs. Là aussi, le Nord et le Sud ont des processus différents pour la reconnaissance des nouveaux pasteurs. Dans le Nord, on a institué, sous l'influence de Pierre Nicole, un système de formulaire. Ça veut dire que le jeune qui se lève au service de Dieu et qui doit commencer par faire ses preuves dans son église est pris ensuite en charge par un frère ancien comme stagiaire. Et au bout de tout un temps, il est présenté à la convention régionale, parce qu'il y a des conventions régionales nord et des conventions régionales sud. Alors il y a logiquement deux conventions régionales nord, une par semestre, donc deux par an, une au printemps et une à l'automne. Même chose dans le sud, donc deux conventions qui sont absolument indépendantes l'une de l'autre. Donc c'est deux mouvements séparés. La seule chose, c'est qu'il y a des observateurs du sud quand il y a des conventions du Nord et deux observateurs du Nord dans le Sud quand se tiennent les conventions Sud. Et alors donc, les ouvriers sont présentés à la convention régionale. Dans le Nord, il y a une commission spéciale des ministères qui ensuite examine un certain nombre de formulaires que postulant doit avoir rempli sur la doctrine, voir s'il est d'aplomb sur la doctrine, sur la pratique, sur sa vision, etc. Bon. Et la commission statue sur, au vu de ces formulaires. Le Sud n'a pas ces formulaires et les refuse, ne veut pas du tout entrer dans cette question des formulaires, tant et si bien que là aussi il y a des tensions qu'il faut aplanir. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le Nord a des formulaires, le Sud n'a pas de formulaires. Ô puissance de la tradition. Bien. Et finalement, un autre élément très important aussi qui va permettre un redémarrage des Assemblées de Dieu après la guerre, ce sont les relations avec la Grande-Bretagne en particulier, et aussi la Belgique, qui est en quelque sorte une excroissance du mouvement de Pentecôte français. Et en 1956, des rencontres régulières sont établies, par exemple avec les Assemblées de Dieu belges, et donc c'est aussi dans cette période, nous l'avons vu, 1948, que les Scots, revenus du Congo et ayant fait un court séjour en Grande-Bretagne, reviennent en France, exactement, ils reviennent en janvier 1947. Ils reviennent par l'Italie, où ils ont d'ailleurs visité un certain nombre d'assemblées là-bas. Et Douglas Scott va attaquer, comme il dit, le Sud-Ouest qui était une région relativement négligée, parce qu'il n'avait pas eu le temps, bien entendu, matériel de s'y livrer. Et c'est ainsi qu'il va évangéliser successivement les villes de Limoges, Bordeaux, Agen, Toulouse, Carcassonne, Perpignan, Narbonne et Béziers. La stratégie de Douglas Scott, c'est d'implanter des assemblées dans les grandes villes. Et là, à partir de ces grandes villes, les pasteurs locaux, qui sont alors nommés, ont pour charge d'établir des annexes dans les villes environnantes plus petites. Au besoin, lorsque ces annexes ont grandi, elles peuvent devenir elles-mêmes indépendantes et autonomes, mises sous la responsabilité de jeunes pasteurs qui eux-mêmes sont évidemment responsables devant le pasteur plus ancien qui en quelque sorte réside dans la ville mère, si j'ose dire. C'est une espèce de structure épiscopale qui n'en a pas le titre, mais qui est quand même une structure épiscopale. Cette structure est beaucoup plus d'ailleurs prononcée dans certaines régions que dans d'autres. Par exemple, la Normandie est très structurée, le Sud en général beaucoup plus aussi que le Nord, mais certaines régions de ce qu'on appelle justement le véritable Nord, la France, Nord-Pas-de-Calais, etc., sont moins marquées par cet esprit épiscopal. Ça dépend aussi des gens qui sont sur place. Et c'est l'époque où un évangéliste anglais qui avait un ministère important en Angleterre, vient aussi épauler les Français. Il se nomme Fred Squire, qui va diriger en France 44 campagnes d'évangélisation. Les plus importantes se tiendront à Paris, Salvoy-Graham et au tristement célèbre Vélodrome d'Hiver. Au printemps 1950, c'est George Jeffreys qui intervient, qui tient une campagne à la salle Pleyel à Paris. C'est à cette occasion-là que le professeur Lovski, qui est un réformé, qui est un ancien membre d'une église de la Réforme, est miraculeusement guéri et va rejoindre le groupe de charme, ayant lui-même ensuite été baptisé dans le Saint-Esprit. À la fin des années 50 et au début des années 60, deux évangélistes américains vont intervenir aussi en France. Il s'agit de T.L. Osborne et de Harold Herman. Harold Herman, qui était un ancien cinéaste d'Hollywood, qui s'est converti, qui avait été aviateur pendant la guerre. Je crois qu'il avait dû même participer, si ma mémoire est bonne, au célèbre bombardement d'Hiroshima, sinon directement, du moins indirectement. Il était dans l'aviation de bombardement américaine, et donc il s'est converti après la guerre, est devenu évangéliste et est intervenu en France, notamment dans les années 60. T.L. Osborne prêchera pour la première fois en France à Rennes en 1958, invité par Clément Lecossec pour tenir la première convention tzigane en France. C'est alors qu'il se fait connaître pour être quelqu'un qui a un ministère de guérison très important. Il revient 2 ans plus tard à Lyon, puis à Lille aussi, mais Thiel Osborne est très excessif sur la question de la guérison. Et il va jeter le discrédit non seulement sur son propre ministère, sur le ministère de la guérison, mais également aussi sur le mouvement de Pentecôte. En 1948 également, se tient à Paris une conférence pentecôtiste mondiale. Nous aurons l'occasion de voir quand nous referons l'historique du mouvement de Pentecôte dans le monde cette fois-ci, que ont été mises en place assez vite des conventions mondiales de Pentecôte, des rencontres où les principaux leaders du mouvement de Pentecôte mondial se concertaient sur des questions, bien entendu, théologiques, bibliques, de stratégie, etc. Et puis elle passait un temps évidemment dans la prière et dans l'écoute de Dieu. Et pour essayer de redonner un coup de fouet, un redémarrage justement à la France, on décide qu'en 1948, la conférence mondiale aura lieu à Paris. Et cela aide effectivement au redémarrage du mouvement de Pentecôte français. Parmi les pasteurs britanniques qui vont jouer un grand rôle aussi dans le redémarrage du mouvement de Pentecôte en France après la guerre, il faut citer Donald G. Donald G. Qui sera un prédicateur régulier, sinon habituel, des conventions nationales du mouvement de Pentecôte français et qui contribuera à le stabiliser, à l'équilibrer. Qui va apporter sa touche de docteur pour ramener un peu, en tout cas, des excès qu'un ministère comme celui de Douglas Scott, qui était un évangéliste, avait fait prendre au mouvement de Pentecôte. Le mouvement de Pentecôte, surtout au lendemain de la guerre, surtout après des visites comme celle de Thiel Osborne, dont je parlais tout à l'heure, va être un mouvement qui va essentiellement axer son message sur la guérison. Et ceci d'une manière très excessive. Et les réunions d'évangélisation sont présentées comme des campagnes de guérison, beaucoup plus que des campagnes de salut. Et la stratégie de nombre d'évangélistes français, c'est pendant plusieurs jours de ne prêcher que la guérison, et petit à petit arriver au salut pour quand les gens ont été en quelque sorte pris par la guérison. Et Donald G. aura l'occasion de dénoncer cette manière de faire comme non biblique, en disant qu'on ne prêche pas la guérison, la vie, on l'exerce, mais que c'est Jésus-Christ qu'on prêche et c'est le salut. Malheureusement, son message ne sera pas entendu de tous, et jusqu'à aujourd'hui, dans le mouvement de Pentecôte français, cette déformation qui est un héritage de Douglas Scott, avec tout ce que Douglas Scott avait de bon, bien entendu, dans son charisme d'évangéliste, mais aussi de ce qu'il avait excessif, toujours aussi en tant qu'évangéliste. En 1968 aussi, se développe donc sur une grande échelle le réveil tzigane, sur lequel nous aurons l'occasion d'y revenir, qui va être une des composantes importantes du mouvement de Pentecôte français, même si il va être amené par la suite à se séparer des Assemblées de Dieu et de prendre son autonomie dans le cadre du mouvement de Pentecôte français. Fred Squire, qui entre-temps a prêché aussi en Belgique, qui a constitué autour de lui une équipe de prédicateurs non seulement anglais, mais également originaires du continent, va créer en 1958 à Burgess Hill, dans le Sussex, c'est-à-dire au sud de Londres, un collège biblique qui s'appelle International Bible Training Institute, en abrégé IBTI, disent les Anglais, Collège international, ou plutôt Institut international de formation biblique, on peut traduire en français, dont il va être le directeur, et qui aura pour but de former des ouvriers de toute l'Europe, originaires de toute l'Europe. La vision de Fred Squire, c'est l'évangélisation de l'Europe, non seulement de la France, la Belgique, mais également l'Italie. Et tous les étés, avec son équipe de jeunes en formation, il passe plusieurs semaines sur le continent, dans différents pays d'Europe, pour évangéliser. Et il invite les jeunes qui se sont convertis à venir se former dans son institut, où précisément, en même temps qu'il leur apprend l'anglais, évidemment, il les forme pour le service de Dieu. Donc, en 1952, Douglas Scott connaît à la ville d'Agen, dans la ville d'Agen, un de ses plus grands succès. Va avoir lieu alors un grand réveil, malgré une formidable opposition catholique, on pourrait peut-être dire grâce à une formidable opposition catholique qui fait une publicité du tonnerre à ce que Douglas Scott est en train de faire. En 1955, Douglas Scott loue la salle Wagram à Paris. Il a un peu moins de succès. Et puis, il reprend son évangélisation du sud-ouest, notamment la côte atlantique, jusqu'à Biarritz et la frontière espagnole. Entre 59 et 60, il se rend aux Antilles pour évangéliser donc ces départements français d'outre-mer. Puis, étant proche de l'Amérique, il se rend également au Canada, notamment au Canada français. Et c'est une époque où alors la Pentecôte française a un certain nombre de problèmes avec un autre mouvement pentecôtiste qui est le mouvement apostolique. Le mouvement apostolique, nous aurons l'occasion d'en reparler, il est né essentiellement au Pays de Galles et s'est beaucoup développé au Danemark. Et dans ces années qui suivent la guerre, les apostoliques, qui sont une branche du pentecôtisme, tentent de s'implanter en France. Il est tout à fait curieux de noter qu'ils n'auront pratiquement pas de succès jusqu'à nos jours. Autant les assemblées de Dieu ont réussi une implantation qui, pour être modeste à l'échelon de la France tout entière, est quand même substantielle, autant les apostoliques ne réussiront après des dizaines d'années de travail en France qu'à rassembler quelques centaines de personnes, quelques milliers de personnes tout au plus. À l'époque qui nous intéresse, précisément devant la difficulté de la tâche, et cela en liaison avec Thomas Roberts, qui est aussi d'origine apostolique, les églises apostoliques vont avoir une fâcheuse tendance à venir pêcher en vivier, ça veut dire essayer de lancer des églises à partir de dissidents et de mécontents qui sont issus des assemblées de Dieu. Et c'est ainsi qu'en Normandie, notamment, vont se créer un certain nombre d'églises dissidentes, par exemple à Dieppe, dans différentes villes de Normandie, qui regrouperont en général une poignée de gens. Ce sont de toutes petites assemblées, mais cette manière de faire, qui est anti-biblique, bien sûr, n'est-ce pas, de la part des apostoliques, fait que les relations entre apostoliques et assemblées de Dieu vont s'empoisonner très rapidement. Les pasteurs normands, puis ceux qui auront des problèmes du même type, par exemple à Saint-Étienne ou bien à Grenoble, dans d'autres villes du même ordre, Lyon, etc. Les pasteurs qui ont eu des problèmes avec les apostoliques à l'occasion des conventions mettent leurs collègues en garde contre les apostoliques, et alors il y a une espèce de guéguerre qui va naître entre Assemblée de Dieu et apostoliques à partir de cette période-là. À la fin des années 60, les Assemblées de Dieu vont connaître un autre problème, un problème qui vient du Canada. Ce problème, c'est une hérésie, une vieille hérésie qui remonte à l'âge apostolique, on appelle l'hérésie sabellianiste, unitarienne, qui prétend que qui nie la Trinité, en quelque sorte, et qui prétend que ce que la Bible appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois formes différentes que peut prendre la divinité. Et la divinité se révèle tantôt sous la forme du Père, dans une deuxième dispensation elle s'est révélée sous la forme du Fils, et dans la dernière dispensation dans laquelle nous vivons, elle se manifeste sous la forme du Saint-Esprit. Et que par conséquent, la doctrine nicéenne de la Trinité est fausse. C'est précisément contre cette hérésie-là, entre autres, que le symbole de Nicée a été formulé. Mais précisément, là, on touche à un des points faibles des mouvements pentecôtistes en général, à savoir que les mouvements de Pentecôte se veulent une résurgence de l'Église primitive et veulent en quelque sorte court-circuiter les 2000 ans d'histoire du christianisme pour se rebrancher directement sur l'Église primitive, en caricaturant un peu et encore à peine la vision de certains pentecôtistes. L'Église est née à la Pentecôte, pratiquement elle a cessé d'exister à la mort des apôtres, et elle a ressurgi avec le mouvement de Pentecôte. Entre-temps, il n'y a pas d'Église. Par conséquent, on tire un double trait, n'est-ce pas, sur toute l'histoire de l'Église. On ne veut pas connaître l'histoire de l'Église. Résultat, obligatoire, on refait les mêmes erreurs, on retombe dans les mêmes hérésies. Et au Canada, donc, entre les deux guerres, et même un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, naît un mouvement qui prend le nom de Jesus Only, Jésus seul, qui, à force d'insister sur le christocentrisme, affirme que Jésus lui-même est Dieu, c'est-à-dire à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Ce faisant, professer que le Père et le Fils sont différents, que le Saint-Esprit est différent du Père et du Fils, c'est faux, c'est une hérésie. Et on ne doit pas baptiser, notamment, et la discussion porte surtout dans la pratique, sur la formule baptismale, on ne doit pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus, Jésus seul. Et on doit baptiser au nom de Jésus seul. Et les adeptes de cette hérésie notent que dans le livre des Actes, chaque fois qu'il est question de baptême dans l'eau, il est dit que ceux qui ont été baptisés l'ont été au nom de Jésus. Et qu'il ne dit nulle part qu'ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils en concluent que c'est une erreur grave d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils invitent tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit à se faire rebaptiser au nom de Jésus seul. La progression du mouvement de Pentecôte canadien n'y résiste pas. Et c'est la fin du réveil à partir du moment où cette hérésie déchire la Pentecôte canadienne, c'est la fin du réveil au Canada. Le Canada ne s'en est pas relevé jusqu'à aujourd'hui, ce qui montre bien ce qu'était l'action de l'adversaire. Bien que jugulé aux États-Unis, les unitariens ont réussi à partir du Canada à implanter aussi aux États-Unis un certain nombre d'unions d'églises qui se réclament de cette même doctrine. Les assemblées de Dieu américaines et les autres mouvements de Pentecôte américains ont réussi au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale à circonscrire le mouvement, mais de temps en temps, il y a des résurgences de cette hérésie-là. Et c'est ainsi qu'à la fin des années 60, certaines églises françaises, après avoir eu des contacts avec les Canadiens, se mettent à professer justement ce type de doctrine. Il faut dire aussi que d'autres églises pentecôtisantes sont dans la même mouvance. Et c'est ainsi que dans le nord de la France et dans l'Est, un certain nombre d'églises qui sont des églises de type un peu frère large, si vous voulez, et qui sont issues des minorités de l'Est qui sont venues s'installer dans le nord et l'Est de la France entre les deux guerres, notamment des minorités polonaises. Pour ces gens qui parlaient essentiellement le polonais, qui avaient du mal à comprendre le français, se sont créés donc dans la plupart des villes où il y avait une forte implantation originaire des pays de l'Est, des églises et polonaises ou qui parlaient des langues proches justement du polonais. Au début, ces églises étaient de type frère large, puis elles ont été touchées par le réveil de Pentecôte, et notamment justement par des Canadiens qui sont venus avec cette doctrine de Jésus seul. Tant et si bien que au départ de cette implantation d'un pentecôtisme dans les églises ethniques, il y a eu cette doctrine de Jésus seul qui était à la base. Par la suite, ces églises sont revenues au contact avec les Français, sont revenues à une vision plus saine de la doctrine, jusqu'à ce que le mouvement Jesus Only, outre-Atlantique, connaisse une nouvelle résurgence à la fin des années 60, avec un homme qui fut pourtant un grand homme de Dieu, qui était William Branham, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. William Branham, qui était un prophète au sens fort du terme, un homme de Dieu d'une très très grande envergure, mais dont le ministère n'a pas toujours été compris, ce qui est un petit peu normal quand on a un ministère qui sort un peu du commun, et, mais aussi qui a été encensé par ceux qui ont été au bénéfice de son ministère. Et on a demandé à William Branham de statuer sur des points de doctrine. Or, William Branham était un prophète, il n'était pas un docteur. Et ce faisant, il sortait de son ministère, non seulement il sortait de son ministère, mais il a fait des fautes doctrinales. Et à la fin de sa vie, William Branham a adopté justement la doctrine de Jesus only, qui lui aurait été soi-disant révélée par l'Esprit de Dieu. Et la conversion, si j'ose dire, entre guillemets, de William Branham à Jesus only a amené une résurgence, une nouvelle flambée de cette hérésie dans le monde entier, là où William Branham était venu prêcher, c'est-à-dire essentiellement en Suisse, un peu en France, mais surtout à partir de la Suisse. Et nombre d'églises pentecôtistes françaises, y compris à Assemblée de Dieu, ont été touchées à ce moment-là par le mouvement branhamiste. Par la suite, n'est-ce pas, ce mouvement a pris une autonomie, même par rapport à Jésus seul initial. Par exemple, les Polonais du Nord ont continué à professer la doctrine de Jésus seul, mais ont refusé le branhamisme. Bon, enfin, vous voyez, c'est complexe, c'est très très complexe. Alors, dans les années 60, 1969 en particulier, les assemblées de Dieu ont eu affaire avec cette hérésie sous ses deux formes, à la fois la forme branhamiste et la forme anti-branhamiste. La Convention nationale de 1969 a pris fermement position contre l'unitarisme, c'est-à-dire contre la doctrine de Jésus seul, et ce faisant, donc, petit à petit, les choses sont entrées dans l'ordre. Mais il continue à y avoir des églises de ce type-là, évidemment, en France, qui ne sont pas assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu ont développé une littérature qui est devenue, on l'a vu, a venu par des éditions, édition de petites brochures au départ, souvent justement pour expliquer ce qu'était la doctrine et pour expliquer ce qu'était leur mouvement à l'extérieur. Cette littérature avait souvent son origine dans des études bibliques qui avaient été données dans le journal mensuel du mouvement, qui s'appelait à l'époque « Viens et vois ». À la fin des années 60, cette expression « viens et vois » a été remplacée par l'expression « Pentecôte ». C'était plus exactement au début des années 70, au moment où est né le réveil charismatique, et les pentecôtistes, craignant que des noms pentecôtistes lancent un journal qui s'appellerait « Pentecôte », ont pris l'option tout de suite pour que personne n'emploie le mot « Pentecôte ». Donc aujourd'hui, le journal officiel des Assemblées de Dieu s'appelle « Pentecôte ». Mais il y a des journaux aussi autres qui étaient publiés par le mouvement de Pentecôte, par exemple l'Appel de la vie, qui était un journal d'évangélisation, ainsi que la 11e heure, également un journal d'évangélisation. En 1948, le pasteur Parly crée ce qu'il appelle Radio Réveil, qui émet sur Radio Monte Carlo l'Évangile, diffuse l'Évangile, qui existe encore aujourd'hui. Puis ensuite, à partir de Radio Monte Carlo, il va également diffuser en italien, ainsi qu'à destination de la Suisse. En 1966, un autre programme radio, cette fois-ci officiel, parce que le programme de Parly était son affaire, en quelque sorte, c'était pas l'organe officiel du mouvement, et on est très très jaloux de ses prérogatives dans le mouvement de Pentecôte, c'est bien qu'on crée un mouvement un peu rival, il faut bien le dire, en 1966, qui s'appelle « Christ vous appelle », et qui diffuse aussi à partir de Radio Monte Carlo, d'ailleurs. En 1973, Radio Réveil, qui est devenu essentiellement, à partir de ce moment-là, quelque chose qui appartient au mouvement de Pentecôte suisse, devient La Promesse est pour vous, mais cette fois-ci s'ouvre au mouvement charismatique. Et de ce fait, les pentecôtistes ne se reconnaissent plus dans cette émission-là. Finalement, dans ces années 70, vont être aussi créées, on reparle constamment de la création d'une école biblique. La première école biblique avait été créée à la Cour des Nous, donc à Paris, dans l'église dont Christo Domouchev était le pasteur, avait fait faillite dans des conditions tout à fait dommageables, bien tristes. Il y avait essentiellement deux hommes qui en étaient les chevilles ouvrières, d'une part le pasteur Fauvel, et puis qui avait d'ailleurs été à la base de la rencontre mondiale de 1948, et puis un autre pasteur dont j'ai oublié le nom, et malheureusement l'un comme l'autre sont tombés dans l'adultère. Et tout à fait intéressant, enfin plutôt intéressant, tout à fait notable en tout cas, que le mouvement de Pentecôte a eu souvent affaire à des problèmes de mœurs avec des pasteurs, parfois des pasteurs qui étaient les plus en vue. Et c'est évidemment un problème qui pose question. Pourquoi tant de pasteurs dans le mouvement de Pentecôte ont des problèmes de mœurs, n'est-ce pas ? Bon, si c'était le Fauvel, par exemple, c'était avec une actrice de cinéma qui s'était soi-disant convertie, enfin, vous voyez le genre, mal convertie vraisemblablement. Et c'est une constatation qu'on fait peut-être, un manque de vigilance, un manque de formation est intervenu à ce niveau-là. Donc, en tout cas, l'école biblique fait faillite avec ces deux hommes qui tombent dans l'adultère, et pendant des années, il ne sera plus du tout question d'école biblique parce que la majorité des pasteurs du mouvement est contre. Le Sud l'a toujours été, mais petit à petit, le Nord est gagné aussi par cette opposition à la notion d'école biblique. C'est à la fin des années 60, dans le courant des années 70, que finalement, les églises du Nord créent une école biblique à Bièvre, à côté de Paris. Le Sud la rejette et décide qu'il n'enverra pas ses jeunes se former dans cette école de Bièvre qui fonctionne finalement essentiellement pour la région normande et pour la région parisienne. Même un certain nombre de pasteurs du Nord y sont hostiles. Voyez-vous, ce qui est extrêmement dommageable en ce qui concerne le mouvement de Pentecôte français, c'est un esprit d'indépendance, un esprit de division et de jalousie. Enfin, là, il y a un mauvais esprit qui existe depuis très longtemps dans le mouvement de Pentecôte et qui va se manifester dans des occasions de ce type-là. C'est dans les années, à la fin des années 70, début des années 80, que la notion d'une école biblique pentecôtiste finira par faire sinon l'unanimité, du moins à rallier le plus grand nombre. Actuellement, l'école biblique pentecôtiste est située à Bordeaux. Mais des pasteurs pentecôtistes se sentent tout à fait libres de ne pas envoyer leurs jeunes se former là. C'est tout à fait facultatif. Et le vieux système de la formation avec un ouvrier ancien, qui est d'ailleurs, à mon avis, la bonne et la seule juste, n'est-ce pas, continue à être en vigueur au sein des Assemblées de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Les Assemblées de Dieu se sont aussi penchées assez vite sur les problèmes de la jeunesse. En 1931, le pasteur Boudehen de Caen crée le premier camp de jeunesse, qui évidemment ne pourront se poursuivre pendant la guerre. Et il faut attendre le lendemain de la guerre, 1947 en particulier, pour que le pasteur Le Filâtre de Perpignan lance un mouvement de colonies de vacances. Il récupère dans les Alpes, à Embrun, une ancienne caserne qui appartenait à l'infanterie de marine, qui est désaffectée à la suite de la guerre, et qui peut abriter des centaines d'enfants, plusieurs centaines d'enfants. Et c'est ainsi que Embrun, la colonie d'Embrun, devient la colonie de vacances officielle du mouvement. On y vient de toute la France. Et là, pendant des années, le pasteur Le Filâtre va faire un travail absolument remarquable dans cette colonie de vacances. Des centaines et des centaines, pour ne pas dire plus, des milliers peut-être d'enfants et de jeunes vont se convertir, être remplis du Saint-Esprit. Des dizaines de pasteurs vont se lever à partir justement de ces camps et colonies de vacances d'Embrun, car il y a deux choses, il y a les colonies pour les enfants et les camps de jeunes pour les, les adolescents et les plus âgés. En 1968, l'armée récupère cette caserne d'Embrun et la colonie donc doit déménager. Le pasteur Le Filâtre achète à Gap un grand terrain sur lequel il va construire donc quelque chose de nouveau. Au bout de quelques années, d'autres pasteurs vont décider, soit parce que Embrun est un petit peu loin de l'endroit où ils résident, soit pour d'autres raisons, de créer leur propre colonie de vacances. Et c'est ainsi que vont se créer dans les Assemblées de Dieu plusieurs centres de colonies de vacances, à droite ou à gauche. Finalement, là aussi, une tradition naît, n'est-ce pas ? Pour les jeunes et les enfants, la seule chose valable, c'est la colonie de vacances, la colo, comme on dit. Et lorsque, dans ces mêmes années, Yvon Charles essaiera de lancer le scoutisme, eh bien, c'est pas dans la tradition pentecôtiste, le scoutisme. C'est la colo. Et des tensions naîtront, justement, à l'endroit du scoutisme, parce que, dans les assemblées de Dieu, c'est pas du scoutisme qu'on fait, c'est de la colo. Si le pasteur Le Filâtre avait lancé, plutôt que la colonie, le scoutisme, eh bien, ça aurait été le scoutisme qui aurait été cachère dans les assemblées de Dieu. Vous comprenez ? Mais comme c'était la colonie, il n'y avait pas de place pour le scoutisme. Bon, passons, ça c'est un avatar, mais qui montre ce qu'était justement, ce qu'est toujours, malheureusement, le climat au sein justement des assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu vont aussi créer leur propre mouvement missionnaire. Dès le lendemain de la guerre, d'ailleurs, alors même qu'eux-mêmes sont encore dans un état de mission, si j'ose dire, sont aidés par d'autres, et ça c'est tout à fait... Créer un comité missionnaire qui est composé d'un président et de 6 membres, et qui va commencer un travail d'évangélisation au Gabon, qui avait déjà été commencé en 1937 d'ailleurs, et qui reprend en 1955, entre 1955 et 1957. Lorsque les pays de l'ancienne Union française, c'est-à-dire les colonies françaises, accèdent à l'indépendance à partir des années 60, les assemblées de Dieu continueront à travailler dans les pays d'expression française, la plupart des pays d'Afrique donc, les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire Antilles, Réunion, îles du Pacifique, Tahiti et autres, etc. Et actuellement, donc, le comité missionnaire de l'Assemblée de Dieu continue ce travail. À la fin de ce siècle, quel est le bilan de ce travail des Assemblées de Dieu ? Eh bien, on constate que à partir des années 60, on peut dire, le mouvement stagne. L'élan qui s'était produit d'abord entre les deux guerres, puis ensuite au lendemain de la guerre, va se trouver freiné. Pourquoi ? Bien justement à cause de cette évolution des mentalités qui fait suite à la Deuxième Guerre mondiale et que nous avons évoquée, et puis aussi à cause des problèmes internes du mouvement. Le mouvement de Pentecôte va connaître de nombreux problèmes internes, des problèmes de chute morale qui alors, quand elles touchent en particulier des hommes en vue, comme c'était le cas du pasteur Fauvel, font un dégât considérable, c'est évident. Et même lorsqu'elles touchent des gens de moindre envergure, font quand même aussi énormément de ravages. Le deuxième problème du mouvement Pentecôte français, c'est qu'il est issu, pour l'essentiel, y compris dans son corps pastoral, du catholicisme. Et du catholicisme, on pourrait dire, préconciliaire. Si bien qu'il y a une transposition dans le domaine pentecôtisme d'un esprit sectaire, faut bien le dire, issu du catholicisme préconciliaire. Et nombre de pasteurs, jusqu'à une période récente, ça tend un peu à s'estomper aujourd'hui, bien que ça reste encore, sont amenés à considérer que les assemblées de Dieu sont l'Église et qu'en dehors de l'Église pentecôtiste, il n'y a pas de salut. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même un peu ça. Que quitter les assemblées de Dieu, c'est aller à la perdition éternelle, à la limite, n'est-ce pas ? et que tous les autres ne sont des gens qui ne sont pas valables. C'était déjà un petit peu la position de Scott. On a vu que les problèmes qu'il avait eus avec l'Église réformée l'avaient amené à prendre une position très, très, très tranchée vis-à-vis des réformés et des autres protestants, y compris des baptistes, disant ben, ce sont des gens qui sont fermés à la vérité, qui dérivent, etc. Bon, avec lesquels, en tant que pentecôtistes, nous n'avons rien à faire. Alors qu'ils auraient dû, au contraire, être en dialogue avec eux, continuer à nouer un dialogue, puisqu'il y a eu, il y avait le groupe de charme. Il y avait, chez les baptistes, on aura l'occasion de le voir, il y avait un mouvement pentecôtisant très fort qui est né dans les années 50, notamment dans les églises du nord de la France. Mais au lieu justement de chercher la communion fraternelle avec des mouvements comme cela, il y a eu une espèce de fermeture. Des fermetures qui étaient dues aussi à des problèmes locaux. Bon, j'ai parlé des apostoliques tout à l'heure, mais le même type de problème, c'est parfois retrouvés avec les baptistes réveillés, comme on les appelait à cette période-là. Alors, la responsabilité n'était pas toujours celle des baptistes, d'ailleurs. Parfois, les assemblées de Dieu avaient aussi tendance à marcher sur les brisés des baptistes et récupérer quelques mécontents, quelques dissidents chez les baptistes pour créer, dans la même ville, dans le même lieu, parfois dans la même rue, une assemblée de Dieu. Alors évidemment, il fallait justifier aux yeux de ceux qui étaient dans ces églises baptistes réveillées, ou groupes de charme, ou apostoliques, les églises polonaises, pentecôtisantes et autres, n'est-ce pas? Il fallait justifier cette fermeture en disant bah, « nous, on est les meilleurs parce que nous, on a tout, tandis que les autres, bon, etc. » Enfin, il y avait une dépréciation des autres pour pouvoir s'auto-justifier, si j'ose dire. Et ce faisant, il y avait donc cet esprit qui était extrêmement fermé. Les assemblées de Dieu ont toujours eu une mentalité extrêmement fermée. Cette mentalité fermée, qui n'était pas le cas des mouvements de Pentecôte des pays voisins, par exemple. En Suisse, c'était pas du tout pareil. En Angleterre non plus. Même si au début, il y avait une certaine fermeture d'une manière générale, petit à petit, sous l'influence d'hommes comme Donald Gee ou d'autres, n'est-ce pas, les pentecôtistes anglais s'étaient ouverts. D'ailleurs, il y avait différents mouvements de Pentecôte qui coexistaient en plus ou moins bonne intelligence en Angleterre. Aux États-Unis, c'était une évidence. L'Amérique du Nord, il y a toujours eu une grande pluralité, y compris dans le mouvement Pentecôte dès le départ, donc ça n'a pas posé de problème de ce type-là. Dans les pays scandinaves, c'était la même chose aussi, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que là aussi, il y avait l'influence protestante qui faisait que, bah, ma foi, bon, on pouvait fort bien considérer que quelqu'un soit un petit peu différent de soi et pourtant le considérer comme un frère. Mais évidemment, dans une mentalité issue du catholicisme, qui était la mentalité française, c'était tout à fait inacceptable. C'était pas concevable. Alors, cette fermeture du mouvement de Pentecôte français a eu des graves conséquences. A eu des graves conséquences pour le mouvement de Pentecôte lui-même, parce qu'il s'est replié sur lui-même, il a cultivé ses travers, ses avatars, et ensuite ça a eu une conséquence négative sur la France tout entière. Parce que si le mouvement de Pentecôte avait été plus ouvert, il aurait peut-être pu justement influencer davantage le reste du protestantisme français, voire du catholicisme. Et on a assisté, notamment lors de la venue du mouvement charismatique en France, dans les années 70, à une fermeture totale des mouvements de Pentecôte français, du mouvement de Pentecôte français par rapport aux autres, par rapport au mouvement charismatique. Ce qui était évidemment très dommage également pour le mouvement charismatique. Et si le mouvement charismatique a été récupéré par le catholicisme, peut-être que c'est en partie aussi à cause de cela. Si le mouvement de Pentecôte s'était lancé à fond dans l'aventure du dialogue avec les charismatiques, peut-être qu'il aurait pu peser d'un certain poids, ce qu'il n'a pas fait. Bon, ça a été dommage aussi sur le plan de l'évangélisation, parce que, encore une fois, comme l'avait fort bien noté Donald Gee, il y a eu, comment dirais-je, une certaine forme d'évangélisation outrancière, même s'il y a eu. Le mouvement de Pentecôte français a essentiellement été un mouvement d'évangélisation. Et à ce niveau-là, donc, il a fait un travail qui, sans être transcendant, est quand même remarquable, en une période de temps relativement courte, n'est-ce pas? Atteignant à peu près 25 000 personnes aujourd'hui en France, baptisées, n'est-ce pas? Bon, ajoutant un peu plus avec les enfants, les gens qui ne sont pas baptisés, mais enfin, disons à peu près ça, 30 000 personnes peut-être. Donc c'est quand même important, c'est quand même relativement important. Mais le mouvement de Pentecôte, du fait qu'il n'était pas structuré par justement des hommes qui avaient une formation biblique solide. Il y en avait quelques-uns, mais pas assez. En dehors de Pierre Nicole, en dehors d'André Thomas Bresse, de quelques autres comme cela, la plupart des pasteurs de Pentecôte étaient des gens qui étaient issus du catholicisme, qui n'avaient donc aucun bagage biblique. Beaucoup s'étaient formés sur le tas avec Douglas Scott, qui était un excellent évangéliste, mais dont la capacité de formation était quand même limitée. Et il y a eu donc cette tendance, un certain nombre de gens, de prendre parfois des positions doctrinales, n'étaient pas capables d'en faire le tour. Ils ont pris les travers de Scott dans le domaine de l'évangélisation, avec par exemple l'insistance sur la guérison, comme je disais tout à l'heure. Et ils n'ont pas su rétablir, même s'il y avait des hommes comme Donald G., comme Thomas Bresse, comme Pierre Nicole, qui mettaient des garde-fous, mais ce n'était pas écouté, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, ils n'avaient pas suffisamment de poids. Alors, ça, c'était une des grandes failles aussi du mouvement de Pentecôte, le manque de formation doctrinale, biblique, solide. Ça reste encore jusqu'à un certain point. Et précisément, cette faiblesse dans ce domaine-là aurait dû au contraire les amener à s'ouvrir aux autres, à essayer de trouver des gens qui auraient pu les amener. Je pense par exemple à un homme comme le pasteur Le Cossec, qui a été formé un peu de cette manière-là, un peu à la va-vite, il faut le dire. Il s'est retrouvé pasteur à Lille, d'une grande église, qui venait de naître dans le réveil, et qui lui au contraire, conscient de ses lacunes, a cherché des contacts avec le pasteur réformé de l'endroit, qui était un homme très ouvert aux choses d'esprit, lui-même baptisé dans le Saint-Esprit, qui avait été guéri aussi par l'imposition des mains dans une campagne de Jeffreys. Il a cherché des contacts avec des pasteurs baptistes, etc. Et donc, il a pu se former, tandis que beaucoup sont restés à un stade, l'évangile aux quatre points, l'évangile carré, c'est pas des choses, il faut le dire, parfois quand même, un évangile un peu simpliste. L'Assemblée de Dieu, parfois il y a eu un évangile un peu simpliste. Bon, il y a eu quand même 36 000 localités qui ont été évangélisées. Il y a eu, bon, ensuite un reflux. Je crois qu'aujourd'hui on assiste à un reflux. Et là, c'est quelque chose qui est quand même inquiétant aujourd'hui, de voir que les Assemblées de Dieu sont aussi touchées par le mouvement disons, pénétration du monde qui s'effectue aussi ailleurs. Les assemblées de Dieu, après avoir été farouchement fermées à la fédération protestante, à la suite de l'évolution de la société par rapport aux sectes et du fait que précisément les assemblées de Dieu ont toujours été considérées comme étant à la bordure des sectes, et parfois, il faut bien reconnaître qu'elles faisaient ce qu'il fallait pour ça. Elles essaient aujourd'hui, au contraire, de se protestantiser, ce qui était tout à fait intéressant. Elles nous ont exclus quasiment, enfin, nous ont pas exclus, mais nous ont obligés à sortir du mouvement en 1975 parce que nous étions entrés à la Fédération protestante. Et c'est tout à fait piquant de constater qu'aujourd'hui, elles font des pieds et des mains pour essayer d'entrer dans la Fédération protestante, ce qui est loin d'être acquis d'ailleurs, n'est-ce pas ? Et ce qui aurait été beaucoup plus facile si, en même temps que nous, elles avaient fait cette même démarche, ce que tout le monde attendait au sein de la Fédération protestante d'ailleurs, ce qu'ont fait les Gitans un an ou deux après, ce qu'avaient fait quelques années plus tôt les apostoliques, en 1966, n'est-ce pas ? Et de ce fait, donc, il y a eu là un coche qui a été manqué et qui a certainement aussi été fort préjudiciable à la Fédération protestante dans ces années-là. Que dire encore sur les assemblées de Dieu, si ce n'est que, elles ont beaucoup insisté sur la ferveur, la simplicité de l'Évangile. Et tout cela était tout à fait valable aussi longtemps que l'esprit de réveil était là. Et à partir du moment où l'esprit de réveil s'est retiré, comme le disait Donald G., bien, il ne restait plus grand-chose. Et en même temps, au début, les pentecôtistes étaient assez carrés sur tout ce qui était la mondanité et condamnaient le cinéma, comme les Huguenots, d'ailleurs, en leur temps, avaient condamné le théâtre. Ils avaient vu sur le divorce, avaient pris des positions très fermes. Et ils étaient aussi très fermes sur le fait que le chrétien ne devait absolument pas s'engager politiquement. Certains même étaient excessifs dans ce domaine-là, interdisant aux chrétiens de voter, allant jusqu'à voter, ce qui évidemment était discutable. L'accent mis sur la guérison de manière excessive, je disais tout à l'heure aussi. Et tout cela, évidemment, a entraîné des difficultés qui se sont fait ressentir, qui se ressentent aujourd'hui sur l'évolution du mouvement de Pentecôte. À la suite du mouvement charismatique, nous avons l'occasion d'y revenir, un certain nombre de mouvements pentecôtisants aussi sont nés de ce mouvement charismatique, notamment ce qu'on appelle la Confédération des Églises baptistes charismatiques, qui est née dans la mouvance de ce qu'on appelle le Buisson Ardent, l'œuvre qui a été créée par Charlie Schinken, nous aurons l'occasion d'y revenir. Puis aussi, dans les années 80, un mouvement qui, au départ, s'appelait Samarie, qui était aussi en marge des Assemblées de Dieu, s'est développé dans le sud-ouest en particulier, et a pris le nom très ambitieux de Signe de la Francophonie, groupe un certain nombre d'églises. Il y a aussi alors maintenant toutes sortes de mouvements qui sont issus du mouvement charismatique, comme les églises du plein évangile qui tournent autour d'un pasteur nommé Truchel, qui sont très axées sur tout ce qui est Toronto, les dents en or et toutes ces choses-là, donc toutes les déviations actuelles. Donc à la fin du siècle, le mouvement de Pentecôte se trouve dans un état d'éparpillement, d'émiettement très important, dans un état aussi extrêmement critique par rapport aux autorités, puisque précisément il n'est pas reconnu comme une église officiellement membre du protestantisme, ce qu'il a toujours refusé d'ailleurs d'être jusqu'à ces dernières années, quand le torchon a commencé à brûler, tant et si bien que quel sera l'avenir du mouvement de Pentecôte en France? Je crois qu'il y a un point d'interrogation qui se pose, n'est-ce pas, à son endroit. Je crois qu'on peut terminer là-dessus, histoire du mouvement de Pentecôte.